Voici le journal d'Antoine Geoffin. Bonjour Antoine.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, les agglomérations de Nice et de Dunkerque confinées pour le week-end. Déplacement interdit sauf impératif. Il faut une attestation. Reportage dans un instant à Dunkerque avec la police qui faisait de la pédagogie hier dans les rues. Hier soir donc. Les autres titres, Antoine.
C'est la journée mondiale de l'anosmie aujourd'hui. On en avait peu parlé avant. Mais cette perte de l'odorat touche des malades du Covid plusieurs mois après la maladie. C'est handicapant au quotidien, on va l'entendre. Le boom de l'immobilier dans les villes moyennes avec l'épidémie. Les citadins cherchent plus d'espace. Illustration dans les Landes. Israël qui vaccine à tout va et lance une campagne humoristique pour convaincre les récalcitrants. Avec une loi aussi qui pose bien des questions. Dans ce journal également, des emplois à pourvoir sur TikTok. Plusieurs entreprises cherchent à recruter via l'application des ados. Lubrizol qui veut éviter un procès et dépose une requête en nullité. Un an et demi après l'explosion de l'usine à Rouen. Et puis l'OM change de président et d'entraîneur à la veille d'affronter Lyon.
Et à 8h20 ce matin, question à Jean Leonetti, le maire Les Républicains d'Antibes, Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, donc une ville confinée depuis hier soir et jusqu'à lundi 6h.
France Inter.
Une première en métropole ce week-end, deux agglomérations confinées, Nice et Dunkerque, depuis hier soir 18h jusqu'à lundi 6h, pour contrer le Covid-19 qui galope dans ces deux zones. Interdiction de sortir, sauf motif impérieux ou pour faire ses courses. C'est le retour des attestations. Dans le nord, des renforts de police déployés pour faire respecter les règles. Peu de travail pour l'instant. Dans l'ensemble, les Dunkerquois sont restés chez eux. Et pour les habitants dehors, la police fait de la pédagogie. Reportage de notre envoyé spécial à Dunkerque, Rémi Brancato.
Au poste de la police municipale, José Millot, le directeur adjoint, donne les dernières consignes à l'équipe de nuit.
Mission principale, bien évidemment, de bien vérifier la mise en place du confinement. Je vous ai préparé des attestations.
La nouvelle attestation pour ce confinement week-end n'a été publiée qu'hier. Si besoin, les policiers la distribuent, surtout là, pour la prévention.
On va aller sur la digue, il y a très, très, très peu de gens, quoi.
Quand soudain, sur le front de mer, un couple en trottinette sans masque.
S'il vous plaît.
Les agents ne donnent aucune amende, mais engagent la discussion.
Est-ce qu'on a le droit d'aller te faire un petit tour ?
Si tout le monde pense comme vous, il n'y a plus de confinement.
Franchement, nous, là,
on n'en peut plus. Et on a envie un peu de sacher.
Ce type de contestation est rarissime, assurent les policiers municipaux. Les mesures sont globalement respectées, même si la lassitude se fait sentir.
C'est sûr que c'est pesant, je peux les comprendre. On vit aussi exactement la même situation. Mais les gens sont de plus en plus sur la défensive quand ils voient des policiers ou voire limite agressifs.
Ils ont l'impression d'être pistés en fait, on attaque leur liberté, ils ont vraiment l'impression qu'on est sur leur dos. Parfois c'est difficile à faire comprendre.
Aujourd'hui et demain, la police municipale de Dunkerque augmente de 30% le nombre de ses agents sur le terrain en journée pour faire respecter le confinement.
Reportage Rémi Brancato avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro.
Plus de 25 000 contaminations au Covid-19 hier encore en France, avec 286 décès supplémentaires.
Ces chiffres ne disent pas les souffrances de ceux qui s'en sortent, mais avec des séquelles, ce qu'on appelle le Covid long. Parmi les symptômes, l'anosmie, la perte d'odorat. C'est la journée mondiale de l'anosmie aujourd'hui. 5% de la population dans le monde est touchée, dont Sarah, cette soignante, a attrapé le Covid au tout début de la pandémie. Et depuis, son nez ne répond plus. Vous l'avez rencontré, Lise Dussault.
Dans un jardin proche de la gare Saint-Lazare, on y sent déjà des odeurs de printemps, le sandwich de quelqu'un à côté ou encore des effluves de cigarettes. Mais pour Sarah, il n'y a aucune odeur.
J'en sens aucune, je sais pas. Est-ce que ça sent bon, est-ce que ça sent pas bon? Aucune idée.
Presque un an que cette soignante vit sans odorat, maintenant elle se sent plus vulnérable.
Parce qu'on est sans arrêt obligé de demander à quelqu'un de goûter ou de sentir quelque chose à notre place avant de le manger. Je sais pas si je sens bon, si je sens pas bon.
Cela lui a même valu quelques frayeurs. Un jour, alors qu'elle cuisine, sa préparation commence à brûler.
J'étais à côté, mais j'ai rien senti. Et c'est quelqu'un qui était loin, qui est venu, il m'a dit « Non, mais là, c'est vrai, c'est en train de brûler. »
Pour retrouver cette faculté, cette Parisienne s'est mise à la rééducation olfactive il y a quelques mois. Deux fois par jour, elle sent des flacons d'huiles essentielles. Mais réussir à récupérer l'odorat reste extrêmement aléatoire.
Je fais des rechutes, il y a du mieux, et tout d'un coup, je perds tout, et ça recommence. J'ai peur de devoir rester comme ça à vie pour plein de choses. Déjà, j'aurais l'impression d'être vraiment dépendante. Un jour, j'aimerais bien avoir des enfants, mais si je sens pas leur odeur, comment je vais faire ?
La jeune femme est loin d'être la seule. Près de 5% des personnes touchées par le coronavirus souffrent actuellement d'anosmie.
Reportage Lise Dussault. C'est une des conséquences de l'épidémie. Certains citadins ont réalisé avec le confinement qu'ils seraient plus à l'aise dans des logements un peu plus grands, dans des villes moyennes par exemple. Certains cherchent en plus une fenêtre sur la mer et sur la côte landaise. Par exemple, soleil, océan et campagne. Les prix flambent, Béatrice Duguay.
C'est bien connu, ce qui est rare est cher. Des maisons sur Osgore et Cap-Breton, il y en a peu à vendre, alors que des acheteurs, il y en a de plus en plus, y compris pendant ces vacances. Conséquence ?
Les gens se jettent sur toutes les propositions. Tout bien qui est mis en vente est visité dans les 24 heures ou 48 heures et négocié au prix très rapidement après.
Il y a même parfois surenchère, ajoute Benoît Ourègue, notaire à Souston. Car pour cette clientèle, souvent venue des métropoles et pas seulement de Paris, l'argent n'est pas un souci, constate Julien Moser, l'un des principaux acteurs immobiliers d'Osgore.
Bien souvent, sur les secteurs les plus prisés, on va dire, également sur les biens au prix les plus forts, il y a très très peu de demandes de prêts. Et depuis la crise du Covid, ça s'est un petit peu accentué. Une bonne proportion d'acquéreurs le fait dans un projet de vie à l'année, notamment jeunes retraités.
Des parents qui se rapprochent de leurs enfants, par exemple. Nous parlons là de biens au-delà du million d'euros qui se vendent en une semaine. Cette flambée contamine aujourd'hui les villages de l'intérieur. Angres, Sobion, Seignos, Tos. Tos, dont le maire Jean-Claude Dolwed voit même les prix des terrains s'envoler.
Oui, c'est pire que l'année dernière. Effectivement, les jeunes ménages et les jeunes qui travaillent dans le secteur ont du mal à accéder à la propriété, comme c'était le cas il y a quelques années.
Solution dans ces territoires, demander aux promoteurs de prévoir aussi des logements sociaux.
Béatrice Duguet.
On part en Israël à présent. Antoine, c'est le pays qui vaccine plus vite que son nombre.
Plus de la moitié de la population a reçu au moins une dose à ce jour. Un tiers a eu les deux piqûres qui immunisent contre le virus. C'est le record dans le monde. Mais les autorités veulent aller encore plus loin. Et oui, parce que près d'un million d'Israéliens de plus de 16 ans ne sont pas encore allés se faire vacciner. Le gouvernement tente donc de les convaincre par tous les moyens avec une campagne pédagogique humoristique et une loi spéciale. Frédéric Mettezo à Jérusalem.
Mégaphone à la main, le Premier ministre Benjamin Netanyahou appelle les gens à se faire vacciner. Et comme c'est Pourim, le carnaval juif, il explique à un homme déguisé en clown ou en chien, en savant fou et en bébé, combien le vaccin est important et efficace. Mais au-delà de cette vidéo pour les réseaux sociaux, le gouvernement a fait adopter une loi controversée. Pendant 3 mois, les collectivités locales et des fonctionnaires de l'éducation et de la santé pourront accéder aux coordonnées des personnes non vaccinées pour les encourager à se faire vacciner en s'adressant personnellement à elles. La gauche s'inquiète pour la confidentialité des informations médicales. Un syndicat de médecins craint une rupture de confiance entre la population et les autorités. Le gouvernement promet qu'aucun chantage à l'emploi, aux allocations ou autres ne pourra être réalisé. Autre nouveauté, cette expérimentation à partir de demain sur 100 personnes. Tout individu entrant en Israël sera mis en quarantaine, soit dans un hôtel spécial, soit à domicile, mais avec un bracelet électronique. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Un nouveau vaccin contre le Covid-19 bientôt autorisé aux États-Unis, celui de Johnson & Johnson. Un comité d'experts l'a recommandé en urgence hier soir à l'unanimité. L'Agence américaine des médicaments doit encore se prononcer. La particularité de ce vaccin, il est unidose. Pas besoin de piquer 2 fois en moins de 3 semaines et il se conserve beaucoup plus facilement. Un réfrigérateur suffit. Pourquoi chercher un emploi via les petites annonces quand on peut aller sur TikTok? Vous connaissez peut-être cette application mobile, prisée des jeunes notamment, avec son contenu léger, ses vidéos drôles avec du playback, des défis, 100 millions d'utilisateurs en Europe, sacré vivier, et les entreprises s'y intéressent pour recruter. Elles débarquent sur le réseau social pour partager leurs offres d'emploi par vidéo. Rebecca Alexis Langlard, tous les moyens sont bons pour cibler les jeunes.
Dans cette vidéo, des jeunes se mettent en scène et dansent devant un laboratoire d'analyse médicale qui propose des postes de préleveur Covid. En jouant avec les codes TikTok, les entreprises ciblent les 18-20 ans en moyenne. Et ça, la SNCF l'a bien compris, elle a cumulé plus d'1,5 million de vues avec ses vidéos décalées pour présenter des métiers qui ne font pas rêver les jeunes, selon Catherine Bourne-Fargo, chargée de politique recrutement à la SNCF.
On est passé par des influenceurs qui sont un relais efficace dans un objectif de notoriété et leur faire découvrir des métiers qu'ils ne connaissaient pas forcément. Les métiers de la conduite des trains, tout ce qui est les métiers d'ingénieur, ce sont des métiers sur lesquels aujourd'hui, chez SNCF, il y a des postes à pourvoir.
Même constat dans la grande distribution qui peine à recruter et à former de nouveaux bouchers en apprentissage. Avec TikTok, Système U a pu trouver des candidats, explique Tatiana Mercatante, responsable RH.
On a au départ lancé sur plusieurs réseaux sociaux et très rapidement, on a basculé nos forces sur TikTok, qui a été effectivement le support qui a le mieux fonctionné. Et TikTok nous a amené à peu près 60 de candidatures.
Devant tant d'efficacité, le distributeur s'apprête à lancer une nouvelle campagne pour rechercher, cette fois, des boulangers, pâtissiers, poissonniers et autres métiers de bouche, toujours en musique.
France Inter, 8h10, a bondi en Seine-Saint-Denis. Un jeune de 15 ans est mort hier en fin d'après-midi, abattu de 2 balles dans une maison de quartier de la ville par 2 individus qui ont pris la fuite en scooter. Les explications de Simon Soubieu.
C'est à 17h10, hier après-midi, que cet adolescent de 15 ans a été visé par des tirs au sein d'une maison de quartier, l'espace Nelson Mandela. 2 individus à scooter ont tiré sur l'adolescent à travers la boîte aux lettres de la maison de quartier. Les 2 individus ont ensuite pris la fuite. Ils sont toujours activement recherchés ce matin. L'adolescent, lui, a été touché à la poitrine. Il est décédé 1 heure après, aux alentours de 18h30, après sa prise en charge par les secours. Toujours pas d'informations pour l'instant sur les motivations des 2 tireurs, selon le parquet de Bobigny, mais de sources proches de l'affaire. La victime de 15 ans était défavorablement connue pour fréquenter les points de vente de stups dans les quartiers nord de Bondy. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny, confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Sur Twitter, hier soir, le maire de Bondy annonce qu'une cellule de soutien a été mise en place pour les témoins et la famille de la victime.
Simon Soubieu, en Guadeloupe, un capitaine de gendarmerie a été condamné jeudi à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Ce gendarme de 30 ans était intervenu lors d'une suspicion de cambriolage en mars 2018 à Baie-Mahault, tirant 7 balles vers le véhicule du suspect. Les jurés de la cour d'assises ont écarté l'intention d'homicide, mais aussi la légitime défense, ce que plaidait l'accusé.
Et une question à présent, y aura-t-il un procès Lubrizol ?
L'industriel dont l'usine de Rouen a brûlé le 26 septembre 2019 a déposé en août dernier une requête en nullité. La justice l'examinera dans un mois. Maître Julia Massardier, qui défend une centaine de victimes, a déposé avant-hier son mémoire, ses arguments pour contrer ceux de Lubrizol. Simon de Carvalho, l'un de ses clients, également président de l'association des sinistrés de Lubrizol, dénonce la stratégie du groupe.
C'est vraiment la honte de voir un industriel qui fuit ses responsabilités. Nous, nous sommes déterminés, d'autant plus cela nous donne des forces, parce que une affaire comme celle-ci, vous comprenez, elle ne peut pas s'arrêter sur une nullité comme ça. Voilà, c'est grave ce qui s'est passé le 26 septembre. On a eu vraiment des grosses séquelles psychologiques, physiques. Pour certains, ça dure encore. C'est David contre Goliath, hein. C'est une industrie milliardaire face à nous, qui sommes des victimes de cet incendie, monsieur et madame tout le monde, avec nos pauvres moyens, qui nous combattons contre cette multinationale. Et aujourd'hui, elle se fait passer pour quelqu'un qui n'aurait pas droit à un procès équitable. Mais quelle honte, quoi. C'est honteux. Et ça nous donne de l'énergie pour les combattre. Pénalement, bien évidemment.
Maître Julia Massardier n'a de son côté pas souhaité commenter elle-même pour ne pas violer le secret de l'instruction.
À 8h12, c'est l'heure des sports. Jacques-Henri Hérault n'est plus le président de l'Olympique de Marseille.
Le club l'a annoncé hier soir dans un communiqué. C'est la décision du propriétaire de l'OM, l'américain Frank McCourt. Il a cédé aux supporters qui réclamaient depuis des mois le départ de Jacques-Henri Hérault. Il est remplacé par le directeur sportif Pablo Longoria. Alexandre Vaux.
Depuis plusieurs semaines déjà, les supporters marseillais demandaient le départ de Jacques-Henri Hérault, avec en point d'orgue l'attaque du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille le 30 janvier. En conflit ouvert avec les supporters, après plusieurs sorties médiatiques, Jacques-Henri Hérault ne calme pas le jeu. Au contraire, le club décide alors de mettre en demeure les groupes de supporters marseillais, les menaçant de les déloger du stade Vélodrome. Arrivé dans les valises de Frank McCourt courant 2016, l'ancien directeur de la communication d'Euro Disney et PDG de Paris Turf aura donc passé un peu moins de 5 ans à la tête du club, avec en point d'orgue une finale de Ligue Europa en 2018, mais aussi quelques passes d'armes avec le patron de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Jacques-Henri Hérault laisse l'OM loin des places européennes, remplacé par le jeune et ambitieux Pablo Longoria, 34 ans, arrivé cet été comme directeur sportif, mais il reste tout de même dans le giron de l'Olympique de Marseille, nommé au conseil de surveillance du club.
Pour le match face à Lyon, demain soir au Vélodrome, un nouvel entraîneur donc sur le banc marseillais, l'argentin Jorge Sampaoli. Hier soir, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, toujours Rennes s'est incliné à domicile face à Nice, 2-1. On va parler rugby dans Esprit Sport ce matin. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Avec l'arrivée d'un trophée à la mémoire de Christophe Dominici, un trophée dont la création va faire l'objet d'un concours, Laetitia.
Et oui, alors Christophe Dominici, souvenez-vous, hein, le célèbre ailier international, si charismatique, décédé brutalement
brutalement il y a 3 mois, à l'âge de 48 ans. Sa disparition avait suscité énormément d'émotions. Eh bien, ces deux clubs de cœur, le RC Toulon et le Stade Français, dont il a porté le maillot pendant de nombreuses années, ont décidé de s'associer pour honorer sa mémoire sur le long terme. Un trophée Dominici va donc voir le jour et il sera remis en jeu chaque année et décerné à l'équipe vainqueur des duels entre les deux formations pendant la phase régulière du top 14.
L'idée a été lancée par une association de supporters.
Oui, qui s'appelle les Fils de Besagne. C'est une association toulounaise. Elle souhaitait en fait que Christophe Dominici reste dans l'imaginaire collectif, que chaque saison, joueurs, direction et supporters des deux clubs se rassemblent autour des valeurs qu'il incarnait et d'un même esprit sportif, celui d'un joueur aimé et respecté aussi bien par les supporters, les coéquipiers que par les adversaires. Une figure dont les nombreux essais inscrits ont fait aimer le rugby à plusieurs générations, en particulier lorsqu'il s'agissait de prendre l'avantage sur les All Blacks.
Ce trophée Domi, Laetitia, on ne sait pas encore à quoi il ressemble et pour cause, sa création va faire l'objet d'un concours.
Effectivement, organiser ce concours par l'association dont on vient de parler, les Fils de Besagne, tout le monde peut envoyer son projet, sa proposition et exprimer ainsi sa créativité. Si jamais ça vous inspire, les candidatures sont ouvertes à partir de ce lundi et on va vous mettre le lien de l'association avec toutes les informations sur la page web de cette chronique sur France
Inter. Esprit Sport, Laetitia Bernard, merci.
Dans le journal d'Antoine Geoffin, le temps de ce samedi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec un beau temps en général et parfois encore un peu de fraîcheur, hein, Jean-Michel Golinski.
Grand écart des températures au lever du jour entre le nord et le sud, avec 10 à 11 degrés sur le Pays Basque et les régions méditerranéennes, et des gelées entre moins 1 et moins 3 degrés sur les Ardennes, la Picardie et la Normandie. Aujourd'hui, le bleu sera la couleur dominante, mais avec deux secteurs où les nuages seront plus nombreux, avec un ciel souvent chargé le long des Pyrénées et un temps assez variable et porteur d'ondées ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes, débordant sur la Provence en journée, le tout accompagné en toute région d'un vent de secteur nord assez sensible, vers 40 km à l'heure en général, jusqu'à 70 pour le Mistral et la Tramontane, dans des températures cet après-midi équivalentes à celles d'hier.
Jean-Michel Golinski de Météo France.